Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Ça va bien? On va faire une lecture dans Éphésiens 4, 11 à 13 ce matin. Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors les saints, ce ne sont pas les saints, les gens morts, mais ce sont les saints vivants, les gens qui sont mis à part pour Dieu et qui sont vivants. Alors, il a donné ses ministères pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et d'édification du corps de Christ qui est l'Église. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Alors, c'est donc une série de réflexions que je fais, que je donne depuis quelques dimanches maintenant, parce que je sais que selon Actes 3, 21, nous sommes dans le temps du rétablissement de toutes choses dont ont parlé les prophètes. Ce rétablissement, ça veut dire que les choses sont remises dans l'ordre correct, mais aussi c'est une guérison. Un rétablissement, c'est une guérison. Et depuis que nous avons traversé, depuis le 27 juin 2014, nous avons traversé beaucoup de difficultés, nous avons été mis à part, ici, loin de tout, dans une merveilleuse campagne, et nous avons été mis à part pour équiper les saints. Notre communauté est une lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. Je viens de recevoir, Philippe m'a envoyé les résultats de notre chaîne YouTube de Révélation Bible. J'ai aussi eu les résultats de Facebook. Vous êtes des milliers à nous suivre et je crois que cela n'est pas par hasard. C'est en Afrique qu'on nous suit le plus. Deux fois plus qu'en France. Bonjour les Africains, que Dieu vous bénisse. Et dans le monde entier, en fait, Révélation de la Bible va partout. Des gens se convertissent et nous sommes un peu cachés, un peu mis à part pour nous reconstruire de tout ce que nous avons vécu, qui était difficile. Mais nous n'avons pas perdu notre temps. Nous avons prié et le Seigneur nous a éclairés, nous a donné beaucoup de choses que nous distribuons à toutes ces personnes et nous voyons des églises changer, nous voyons des écoles se créer, nous voyons des écoles bibliques, je veux dire des gens ou des pasteurs décident d'enseigner vraiment les chrétiens et c'est glorieux. Il faudra un jour que j'aille faire un tour dans tous ces groupes parce que ça, j'ai envie de les voir. Je reçois des photos mais j'ai envie d'aller les voir en vrai. Donc notre communauté est une lumière qui brille dans les ténèbres de ce monde. Vous savez qu'il y a aussi des radios chrétiennes qui prennent nos prédications et qui les diffusent. Donc c'est encore plus que ce que nous pensons. Nous ne sommes pas rien du tout. Le Seigneur se sert vraiment de nous et c'est très encourageant. Les enseignements qui sortent d'ici ne servent pas à entretenir les gens, mais à les perfectionner. Mon ministère n'est pas d'entretenir les gens dans la foi, de les garder dans la grâce de Dieu, pas du tout. Mais ces enseignements servent à perfectionner ceux qui entrent en contact avec nous. Si vous entrez en contact avec nous, c'est que Dieu vous cherche. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme groupe, comme truc sur Internet? Et si vous êtes tombé sur nous, c'est bien parce que Dieu vous cherche. Hein. C'est pas par hasard. Je crois pas au hasard. Je crois que le hasard, c'est Dieu qui se promène avec des lunettes noires. Et le perfectionnement en vue de quoi? Eh bien, en vue d'un ministère. C'est ce que nous venons de lire. Nous existons pour perfectionner les saints, pour les mettre en état d'accomplir le ministère. Alors, le ministère, ça n'est pas avoir une estrade, un micro et un public devant soi. Ça, c'est l'idée moderne du ministère, mais ça n'est pas ça. L'année passée, je vous donne un exemple. L'année passée, nous avons construit sur notre propriété pour la communauté, nous avons construit un chalet. Et pour ce faire, eh bien, on a demandé à un architecte de venir pour faire des plans. Non pas pour qu'il construise le chalet, mais pour qu'il fasse des plans qui allaient permettre à d'autres gens, d'autres corps de métier, de pouvoir construire ce chalet. Eh bien, dans l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin de toutes sortes de ministères, de toutes sortes de gens qui font toutes sortes de choses. Nous avons besoin de conducteurs capables de réaliser les plans de Dieu, qui est, comme disent les francs-maçons, le grand architecte. Hein, je ne suis pas franc-maçon, mais je dis ça comme ça. Parce que c'est vrai que c'est lui qui a fait les plans. C'est pas les pasteurs qui font des programmes. Non. C'est Dieu qui a fait les plans et il faut suivre les plans. Et suivre les plans de Dieu, ben, c'est suivre ce qu'il a donné dans la Bible. Tout le reste, c'est des détails. Je sais que le mot détail n'est pas très bien vu depuis quelques années, mais tant pis, il existe, il est français. Nous avons besoin de personnes croyantes pour la construction de l'édifice de Dieu, c'est-à-dire son Église, telle qu'il la veut lui. On n'est pas libre de construire son Église comme on veut. Pas une question d'architecture, c'est une question d'organisation de l'Église. Et la seule organisation que nous trouvons de l'Église se trouve dans Acte 2, Acte 4. Vous voyez, un ministère engendre d'autres ministères. Alors, quand on regarde, là, nous avons des moutons, on est à la campagne, on a aussi des poules, on a des araignées. Les brebis, elles mettent au monde des agneaux, et dans les églises, les brebis ne fournissent pas le lait pour leurs propres agneaux. Ça, c'est un problème. Pourtant, c'est le seul processus naturel. Dans l'Église de Jésus-Christ, les fidèles doivent mettre des agneaux au monde, c'est-à-dire dans le nouveau monde, dans le royaume de Dieu, et elles doivent s'en occuper, elles doivent leur donner le lait. Vous savez que le vendredi, on étudie au sujet de maître et disciple, et on voit qu'il y a une nourriture qui est du lait, c'est les bases, les choses élémentaires des oracles de Dieu. Ça, c'est le boulot des brebis qui mettent au monde, c'est-à-dire qui mettent au monde dans l'Église des nouvelles personnes. C'est aux brebis de faire de l'évangélisation, de conduire les gens à Jésus, puis ensuite de leur donner le lait. Le grand but, c'est que chacun soit vraiment à sa place afin de parvenir à la stature de Christ, stature parfaite de Christ. C'est pas rien. Notre Père veut que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous deveniez aussi grand que Jésus, vous vous rendez compte? Alors, dans les églises, les pasteurs doivent commencer à chercher la maturité pour eux-mêmes. Ce n'est qu'après qu'ils seront en mesure de favoriser la croissance du troupeau. Quand je parle de croissance, ce n'est pas une croissance en nombre. C'est que les gens du troupeau grandissent, mûrissent, deviennent mûrs, capables de manger des choses plus solides. Paul le dit au verset 14 et 15 de ce même chapitre, je reprends Éphésiens 4, je lis 14-15. Ainsi, donc de cette manière-là, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, vous voyez déjà à l'époque, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, quand il dit en professant, ça veut dire en proclamant, en disant la vérité avec amour, en disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Comment ? Eh bien, en faisant les choses que je viens de vous dire, c'est-à-dire que chacun prenne sa place dans le corps de Christ et se développe. Eh bien, mes cadets, comme dirait Louis de Funès, eh bien, mes cadets, l'Église est bien loin de tout ça. J'entends vos plaintes, les frères et sœurs. J'entends vos plaintes quand vous m'écrivez, quand je vous parle. C'est pourquoi, ici à la communauté, nous devons continuer à jeter la semence de la parole de Dieu que nous avons reçue. Nous avons été mis à part pour recevoir ces choses, pour pouvoir les donner. J'écoutais hier une femme qui disait avoir prié pour que Dieu lui parle pour un certain sujet. Et ensuite, elle dit au moins 10 fois, « Je pense que... » Eh bien non, madame, quand Dieu parle, on n'est plus à dire « je pense que », on sait. On sait. On dit ce qu'on sait, on proclame, on professe ce qu'on sait fermement. Donc je doute que Dieu lui ait parlé alors qu'elle avait des moments de prière. Elle a pris ses pensées pour les pensées de Dieu, elle a fait un petit montage à sa sauce, avec sa culture. Seulement voilà, ce qu'il y a, c'est que Dieu ne parle pas des détails. Quand l'architecte a fait les plans pour notre chalet, il n'a pas commencé à dire « il faudra mettre un seuil, il faudra mettre... » Non, ce n'est pas son boulot. Il faut que le fil électrique passe là. Voilà, ça c'est le boulot de l'électricien, c'est le boulot du menuisier, c'est la... Il a donné les plans dans la Bible, et c'est à nous de suivre ces plans dans la Bible. C'est notre seule liberté. Cette femme, elle conclut en allant chercher 2 Corinthiens 3:17. Alors, je vous lis 2 Corinthiens 3:17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est-à-dire, elle veut dire, vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais moi, Dieu m'a dit ça, voilà. Maintenant, madame, vous êtes en train de prendre un texte qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit en réalité. C'est peut-être pour ça que l'apôtre Paul ne voulait pas que les femmes enseignent. Je ne sais pas. Quelle liberté, de quelle liberté il est question dans ce texte? La liberté d'aimer Dieu et son Église. La liberté de faire la volonté écrite de Dieu. Nous ne pouvions pas faire la volonté de Dieu avant que Jésus nous ait remplis de son esprit. Nous ne pouvions pas faire ce qui est écrit parce que nous en étions parfaitement incapables. Et là où est l'Esprit, là est Jésus qui nous donne cette liberté de pouvoir enfin faire ce qu'il dit dans les Écritures. Pas la liberté de faire ce qu'on veut. On va lire le verset 18, écoutez bien. Alors, je relis le verset 17 et le verset 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Comment? Au travers des ministères d'Éphésiens 4, qui emmènent les saints à la perfection. C'est ça la liberté. Nous sommes libres maintenant de pouvoir parvenir à cette perfection, si nous voulons, nous sommes libres. Nous sommes dégagés des pièges du diable pour pouvoir faire la volonté écrite de Dieu. Le but de la liberté que nous donne Jésus, le chef, il nous donne de devenir de plus en plus à l'image de Jésus. C'est ça la liberté que nous avons, que nous n'avions pas. On voulait faire le bien. L'apôtre Paul dit avant, il voulait faire le bien, mais le mal était attaché à lui, il ne pouvait pas. Et il disait, mais qui va me délivrer? Et il dit, c'est grâce à Dieu. Voilà. Dieu m'a donné la liberté de pouvoir maintenant faire les choses qu'il veut. La liberté, c'est de pouvoir faire ce que Dieu a voulu que nous fassions et qu'il a pris soin de faire écrire dans la Sainte Bible par ses apôtres pour que nous soyons transformés en la même image, tous en la même image, celle de Christ. Alors, utiliser ce verset 17 pour dire qu'on est libre de faire comme on veut, non, madame. C'est sincère, mais c'est faux. C'est utiliser un texte sacré hors de son contexte. Le texte ne signifie rien d'autre que, écoutez-moi bien, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté de pouvoir devenir comme Christ. Voilà ce que signifie ce texte. Les églises ne l'ont pas compris. Eh bien, on va leur expliquer encore, jusqu'à ce qu'il y en ait quelques-uns qui comprennent. C'est parce qu'ils se croient libres de faire ce qu'ils veulent, c'est pour ça qu'ils ont créé des clubs qu'ils appellent pompeusement les églises, alors que ces clubs ne sont pas des églises, puisqu'elles ne sont pas selon le modèle des Écritures. Tout ça, ça va passer un jour au feu, et ce qui ne tiendra pas devant Dieu sera consumé. Et toutes vos organisations, tous vos machins, brillants soient-ils, seront consumés parce qu'ils ne sont pas selon les Écritures. Parce que vous avez fait comme vous voulez. Je ne sais pas en France, mais en Suisse, on a un système dans les écoles qui est très bien. Quand vous arrivez en cours élémentaire, quand vous avez fini cela, vous pouvez enseigner les cours préparatoires à ceux qui arrivent, aux nouveaux. Je ne sais pas si c'est comme ça en France aussi. La progression dans l'Église, c'est comme dans les écoles suisses. Quand j'étais gamin, j'ai progressé pour être en cours élémentaire de deuxième année, et le prof, M. Favre, je me rappelle toujours, m'a donné le pouvoir d'enseigner à d'autres le programme de première année. Parce que j'étais en deuxième année. Et bien sûr, il supervisait tout ça. Et ceux qui étaient en première année enseignaient les nouveaux en leur enseignant les cours préparatoires. Il y avait de l'ordre. C'est suisse. Il y avait de l'ordre. Vous savez, j'enseigne plus l'ABC de l'Évangile. C'est pas que je n'y crois plus. Ça signifie pas que j'ai oublié l'ABC de l'Évangile. Les choses élémentaires, je ne les ai pas oubliées. C'est encore enseigné chez nous. C'est encore pratiqué chez nous, mais à des niveaux plus élémentaires. C'est ainsi que la croissance continue, mais pas seulement la croissance physique, la croissance en nombre de personnes, mais la croissance en richesse spirituelle de chacun. Je pose une question. Vous savez que Paul disait « Je désire m'en aller vers le Seigneur, gna 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 ». Comment Paul aurait-il pu désirer quitter ce monde s'il n'avait pas d'abord fait des disciples comme Timothée, Philémon, Épaphras et les autres? Et Jésus? Eh bien Jésus, il est parti au ciel tranquille. Hein. Pourquoi? Parce que il était satisfait d'avoir laissé sur terre 11 répliques de lui-même. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, nous dit l'apôtre Jean dans la première épître, je crois. Les 11 ont nommé Matthias pour remplacer Judas, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il n'y avait pas d'évêque à aller trouver pour dire « Oh, notre pasteur est parti au ciel, est-ce que vous pourriez nous en envoyer un autre ?» Non. D'abord, il n'y avait pas d'autres, il n'y avait qu'eux. Non, ils avaient grandi, ils étaient prêts à prendre la place du Seigneur, de faire ce que Jésus avait fait. Jésus a dit « Tout ce que j'ai fait, vous le ferez pareillement, et même encore des choses plus grandes. » Et ils étaient soutenus pour cela par le Saint-Esprit de Dieu qui vivait en eux. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui vivait en eux ne s'occupait pas des détails. C'était à eux de s'occuper des détails. Hein, chérie, tu te rappelles de cette femme qui venait à l'église au début, quand on a commencé, puis qui nous disait « Oh, le Seigneur est bon, il m'a révélé dans un songe. » Non, il m'a parlé, me disant que il fallait que j'aille sur tel marché parce que les melons étaient plus gros et meilleurs marchés que dans l'autre marché. Enfin, vous croyez vraiment que Dieu s'occupe de nouilleries comme ça? Peut-être, mais pas avec moi en tout cas. Jamais Dieu me dit des nouilleries pareilles. Tu en as les meilleurs melons du monde. Merci Olivier. Je rigole. Une autre question. Pourquoi est-ce que dans l'Église actuelle, quand quelqu'un désire se former pour le ministère, il doit d'abord quitter son Église pour aller dans une faculté de théologie? Moi, ça m'est arrivé 3 fois. Je vais vous le dire, c'est parce que l'Église d'aujourd'hui ne fait pas son travail. C'est à l'Église de faire ce boulot-là. Si les pasteurs étaient effectivement en train de mettre les saints en état d'accomplir le ministère, comme il est écrit là, comme on a lu, il n'y aurait pas besoin d'école de formation spécialisée. Je n'ai rien contre ces écoles, comme je vous dis, j'en ai fait 3. Mais Dieu n'a qu'une agence sur cette terre, l'Église. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quelque chose qui est dans l'Église. Oui, je sais, on peut dire, je connais tous ces arguments. Je ne suis pas contre les facultés de théologie, ni contre les écoles bibliques, ni contre les séminaires, ou autres organisations extra-ecclésiales. Je dis simplement que l'Église est faible. Puis alors, nous parlons. Alors, la première école biblique que j'ai faite, à la fin de la première année, j'étais convoqué par le directeur qui m'a demandé, alors, est-ce que vous êtes content, est-ce que vous allez revenir l'année prochaine, nous serions contents de vous voir faire. Je dis non, je ne reviendrai pas. La raison, c'est que je m'ennuie. J'en apprends autant dans mon Église qu'ici. Et puis, si je veux me perfectionner encore, eh bien, il y a des librairies chrétiennes avec des très bons bouquins. Donc, je ne reviendrai pas. Et c'est comme ça que je suis rentré dans mon église en Suisse, et puis que de là, le Seigneur m'a dirigé sur Teen Challenge, où j'étais efficace, où j'ai commencé vraiment dans le ministère auprès des gens, des vrais gens de la rue. Mais l'Église, elle est malade, elle est faible, elle a besoin de béquilles. Alors, merci pour les béquilles. C'est vrai, c'est mieux que rien. Mais nous ne devrions pas passer notre temps à monter des usines de béquilles. Nous devrions plutôt chercher la guérison de l'Église, la guérison du corps de Christ. Pour le moment, veillons à ne pas enlever les béquilles de ceux qui sont faibles, c'est sûr. C'est sûr. Mais nous sommes dans le temps de rétablissement de toutes choses, de guérison. C'est le temps de la guérison de toutes choses, prophétisée dans Actes 3:21. Alors, prions pour cette guérison. Partageons ces enseignements que vous recevez sur Révélation Bible. Prions pour que notre vie communautaire ait l'enseignement qui va d'ici jusque partout dans ce monde. Prions de sorte que notre site, révélationbible.fr, puisse porter du fruit davantage encore. C'est pas qu'il ne porte pas de fruits, mais il pourra en porter plus. Je pense que on va voir ça exploser tout d'un coup. Ça va faire boum tout d'un coup. Pour le moment, on est en train de mettre les semences. Je ne sais pas si vous avez vu le film « À l'Est d'Eden ». Dans le film « À l'Est d'Eden », James Dean, Sam, je ne sais plus quoi, des haricots, je ne sais plus quoi. Et tous les jours, il va dans le champ, il se met à plat ventre, il regarde si ça pousse, et puis il dit « Allez, poussez, poussez, poussez !» C'est ça qu'on veut, c'est que ça pousse. Et ça pousse, c'est vrai qu'on voit déjà des fruits. Et je bénis Dieu pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui m'écrivent et qui font des choses extraordinaires, vraiment, vraiment extraordinaires. Des gens que je ne connais même pas et qui m'écrivent des choses fantastiques qu'ils font avec ces enseignements. Mais je veux voir plus. Je veux voir plus. Si Dieu permet, il me le montrera. Sinon, de toute façon, toutes ces prédications resteront sur Révélation Bible jusqu'à son retour. Et peut-être que c'est là seulement que ça bougera. Merci Jésus d'aider chacun et chacune à être consistant, sérieux et humble pour pouvoir faire ta volonté. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, plusieurs fois, j'ai essayé de faire prêcher des gens. Ce qui est terrible aussi, c'est que ceux qui commencent à prêcher, très souvent, prennent la grosse tête. Ils pensent que, voilà, ça y est, c'est arrivé. Restez humble. J'ai dit le mot humble dans ma prière, c'est pour ça que ça me fait penser. Il faut rester humble. Être ministre de Dieu, c'est être esclave de Dieu. C'est pas être un meneur d'hommes, c'est pas être un dirigeant, c'est pas être un chef d'entreprise. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Non, il faut rester humble. Si vous commencez à avoir des résultats dans votre ministère, des miracles et des choses comme ça, restez humble. Il y a un homme qui m'a écrit aujourd'hui, tu te prétends serviteur de Dieu. Non, je ne me prétends pas serviteur de Dieu, je fais ce que je peux pour servir Dieu. Et puis Dieu bénisse ce que je dis en m'accompagnant par des signes, des prodiges et des miracles. Pas tellement en France, parce que vraiment la France est un pays... je ne veux pas dire ce que je pense, mais encrouté, mon Dieu, c'est comme ça, hein, c'est l'histoire de la France. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se bougent. Et bien, je compte sur vous, faites-le bouger. Que Jésus vous bénisse. Amen. Au revoir.